wicked, wicked, wicked. Quoi? Tu ne savais pas que les vents étaient là pour veiller sur les voix qui émanent du monde froid. Crois en toi avant de croire en qui ce soit. Le micro est une arme et l'esprit est une fable. Boom, bye, bye, trop de MC sont passables. Stéréo, c'est un duo, pas une démo. Underground connection pour comprendre le niveau. L'enjeu d'association comme celle-ci. La musique unifie les esprits qui ne sont pas encore trop pourris. Sur ce, j'ai fini.
While some choose to live, yo, the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection.
Pamphlet, I have my microphone equipped. All with the quips coming with some next type Iliotic shit. Supernatural grabs the mic and I was bound to flip. See, the government wants to put the computer chip in your hand. Want to give your mind brain scans. Be ready for the new world order. I'm stepping, grabbing weapons for Armageddon. They cannot compute time to make the loot. I'm standing on the block with 5,000 troops with dreadlocks. Time to blow the spot. Ha, I tell you what, the situation's getting hot. Temperature starts to rise. You're in for a surprise. If you do not wake up, it's the black man's demise. We got to settle up and work together. Yo, pull the lever, be twice as clever. What's up with that? I think that we are trapped. They have us sipping on 40s on the corner selling cracks. Never, we gotta be clever than that. So keep on coming black with the lyrical format. Who is it? I grab these beats, I slaughter, I walk on land, and I walk on water. Soon everybody flew these beats. Supernatural's black, my stomach is sweet. Make the party move with ugly smooth. Be it rockin' squats, slam on the groove.
While some choose to use the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some try to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Il est 20h03, vous êtes à l'écoute de Radio G et on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission d'actualité sportive, qu'elle soit locale, internationale, on va parler de tout. Effectivement, dans les actualités locales, il s'est passé pas mal de choses, notamment au niveau du hockey, du SCO également. Et puis derrière, vous avez l'habitude, Ligue 1, Ligue des Champions, le tennis, le biathlon, le cyclisme aussi également avec le premier monument de la saison. Et pour m'accompagner donc sur cette émission, une équipe remaniée par rapport à la semaine dernière, que des nouveaux, moi y compris, que des revenants, on va dire, avec déjà à ma gauche Paul. Comment tu vas, Paul ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah écoute, très content, très très content d'être présent aussi. Ton week-end sportif s'est bien passé ?
Assez bien passé jusqu'à dimanche 17h, enfin du coup 19h et la défaite de l'OM, mais tout s'est bien passé pour le reste.
Compliqué ce week-end pour les Olympiques. Hein.
Très très compliqué pour les deux Olympiques, comme tu dis, même la semaine, j'ai envie de te dire, au final.
Oui, 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 oui. Bon, on l'évoquera malheureusement. Ça fait mal. Et puis à ma droite, Robin. Comment tu vas ce soir, Robin ?
Mais écoute, très bien. Un dimanche très chargé footballistiquement parlant, avec de très belles affiches dans tous les pays. Et puis notamment le tennis aussi, auquel je m'intéresse de près. On a un super tournoi aussi qu'on va évoquer. Donc stop, une grande semaine riche. La Ligue des Champions également qui nous a réservé des gros scores, si je puis dire. Donc voilà.
De très très près au niveau du tennis, t'as l'écran qui est juste à côté.
Exactement.
De toi. Est-ce que tu peux nous faire une petite mise en bouche là de ce que tu vas.
Bah oui, puisque Arthur Fils a un tableau plus que ouvert. Maintenant, on en parlera tout à l'heure évidemment, mais il mène 1-7-0 et n'est pas encore breaké. Et n'a pas breaké. 3-2 pour l'instant pour lui dans le deuxième set. Mais voilà, Arthur Fils qui a de grandes chances s'il joue à un bon niveau. Il a ses chances en tout cas de pourquoi pas atteindre un dernier carré et même une finale. On l'espère forcément.
tournoi à Miami. Donc dans les actualités internationales, pour l'instant on va s'intéresser au local. Donc à commencer par le tennis de table. Donc puisque le week-end n'avait même pas encore commencé que ça jouait, la 16e journée de Pro A, et une défaite sèche pour les Loups d'Angers, battus 3-0 à domicile par Hennebon. La zone rouge donc se rapprocherait alors dangereusement pour Angers, tout le contraire de la Romagne, qui a pris de l'air et fait un pas vers le maintien avec sa victoire 3-2 à domicile également face à une équipe de Caen premier relégable et désormais à 8 points de leur adversaire du soir. Et hier, c'est les Loups d'Angers donc qui jouaient à nouveau, cette fois-ci face au dernier, qui est Cergy Pontoise, et la marche était trop haute hein, pour la Lanterne Rouge. Victoire 3-0 des Angevins, aussi nette que celle encaissée quelques jours plus tôt, mais qui a de quoi rassurer. Les Loups sont donc 8e à égalité de points avec la Romagne et creusent donc un écart similaire avec Caen. On va s'intéresser au basket maintenant, puisque c'était également la 16e journée de National 1, et on switch donc avec une nouvelle défaite de l'EAB, 79 à 83 contre Saint-Chamond, une quatrième défaite de suite qui aurait pu ne pas avoir lieu si le réalisme avait été du côté des Angevins. En National 1 féminine, bilan mitigé pour les équipes du département. Opposées aux leaders, les joueuses de Lamboisière n'ont pas réussi un nouvel exploit, une défaite 53 à 46 face à Trit-Saint-Léger. Pour trouver de la satisfaction, il faut aller du côté de Saumur qui affrontait la Lanterne Rouge de la Poule B. Face à Villeneuve-d'Ascq, les Saumuroises n'ont pas eu d'état d'âme, une victoire 80 à 43 qui leur permet de repasser à la 9e place après la défaite de Franconville. En Betclic Elite, Cholet a longtemps cru pouvoir revenir sur Strasbourg. En Alsace, les coéquipiers de TJ Campbell ont mis du temps à démarrer, trop de temps, si bien que malgré leur excellente dernière minute, la victoire est finalement revenue à l'équipe domicile. Et puis un mot de l'UAB qui joue en ce moment même son match de Wonder League face à Montpellier. Nous vous tiendrons évidemment informés du déroulé de cette rencontre au fur et à mesure de l'émission. En rugby, donc, le SCO s'impose face à Blois, victoire 22 à 15 à l'extérieur, et un match solide tenu de bout en bout. Les Angevins n'ont pas paniqué, ont su garder leur avance déjà acquise lors d'un premier acte qui s'est fini sur un 12 à 6 pour les SCOistes. Donc après avoir perdu leur match 1 des quarts de finale de play-off de division 1 au tir au but, les Dogs de Cholet étaient quant à eux revanchards et ils ont dû fructifier donc ce sentiment. À domicile, les Cholletais n'ont fait qu'une bouchée d'Épinal pour revenir à un match partout. La route sera encore longue, mais cette victoire 4-0 permet aux Dogs d'entretenir leur rêve de demi-finale. Du côté des Ducs, il aura fallu attendre le match 6 et avoir beaucoup de résilience pour se sortir du piège niçois. Mené à deux reprises, les Angevins égalisent finalement à deux partout à 15 minutes du terme avant 10 minutes plus tard de prendre les devants, sans jamais se faire rejoindre. Victoire 3-2 à Nice, victoire aussi dans la série 4-2 et une place en demi-finale pour les Ducs qui rejoignent ainsi Rouen, Bordeaux et leurs futurs adversaires grenoblois. Et puis on va aller vers du foot maintenant, à commencer par de la Nationale 3 avec une courte victoire pour la Baie du SCO face à Vertou, la troisième de rang acquise à une semaine du derby face à Nantes. Un cran plus haut, c'est Saumur qui se rassure en repartant de Charente avec le point du nul. Deux partout face à une équipe d'Angoulême qui s'est en partie sabotée elle-même avec deux cartons rouges reçus en fin de rencontre. Un point précieux dans la course au maintien pour Saumur. Une course au maintien dans laquelle n'est plus le SCO. Et heureusement, vu les résultats de ce week-end, défaite 5-2 à Bollard. Un match à oublier pour nous, évidemment, pas pour les joueurs qui ont pu vendredi observer toutes leurs failles. Défaite attendue, mais défaite lourde. Je ne sais pas ce qu'on en pense autour de la table. 5-2, c'est quand même très très compliqué, Paul.
Très très compliqué, comme tu le dis, car même si on a acquis un maintien il y a deux semaines de cela, si je ne me trompe pas, il faut quand même continuer dans cette idée-là de prendre le plus de points possible, je pense. Et même si bon, on sait très bien qu'à Lens, ça allait être très compliqué et que cette équipe du SCO avait des difficultés ces derniers temps contre les grosses équipes à ne pas encaisser beaucoup de buts. Ce match-là nous a montré quand même, comme tu l'as dit, certaines failles encore défensivement quand Kikofi n'est pas là et que certains joueurs ont beaucoup de mal des fois quand leur taulier en défense n'est pas là. Donc c'est un match, j'ai envie de te dire, à oublier pour avancer dans cette fin de saison.
J'avais désactivé mon micro. C'est vrai que là, on a souvent loué cette saison quand même la qualité défensive du SCO, notamment de certains de ses joueurs. Je pense à Ousmane Camara qui est totalement passé au travers. Hein. Il est quand même fautif sur 3 buts des 5 lensois. Toi, Robin, t'en as pensé quoi de la prestation défensive du SCO? Au-delà même du score, c'était aussi catastrophique que vu sur le score?
C'est sûr que voilà, c'est une performance qui restera pas dans les annales hein, du côté de la saison du SCO. Après, j'ai envie de te dire que selon moi, la fin de saison, si je puis dire, elle est un petit peu anecdotique dans le sens où l'essentiel est fait. Voilà, si le SCO peut aller chercher un top 10, voilà, là je regardais le top 10 et à 5 points. Donc c'est possible, mais vu les gros adversaires qui restent, ça m'a l'air quand même compliqué. Le SCO qui est voilà en deuxième partie de saison, c'est beaucoup plus compliqué hein, forcément qu'en première, avec notamment les pertes de Sidiké Chérif, d'Imad Abdelli. Donc voilà, pour moi l'essentiel est fait du côté du SCO, et dans la tête c'est une fin de saison on va dire un petit peu mitigée, dans le sens où moi je pense que l'objectif n'est pas forcément de vraiment performer, d'aller chercher voilà, là on savait de toute façon contre Lens ça va être compliqué, une équipe qui joue le titre. Ouais, moi je pense que du côté du SCO dans les têtes c'est juste maintien qui est assuré, et puis après la fin de saison là il reste quoi, il reste 7 journées, ça va être plutôt avec le pied levé, donc voilà.
Mais c'est vrai que moi je trouve ça dommage quand même, parce que Alexandre Dujeu, il a tenté des nouvelles choses. Là, on a vu quand même des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense à Louer. Je pense aussi à Pona, qu'on avait vu un peu, forcément, avec les blessures récurrentes de Kofi. Bon, lui, il est pas verni pour le coup, parce qu'il a quand même connu des matchs compliqués, alors que c'est un gardien talentueux. On a aussi vu, la première titularisation de Leroy Machine, qui a marqué quand même. C'était une rencontre intéressante de la part de Leroy Machine, vous avez trouvé?
Bah, c'est intéressant parce qu'il marque, comme tu le dis, il est titulaire pour la première fois et c'est quand même très bien pour lui, parce que ça va le mettre en confiance pour cette fin de saison. Je pense que c'est un joueur qui a eu du mal sûrement après son pénalty contre Toulouse à se relancer, parce que quand t'es jeune, tu loupes un péno comme celui-ci, c'est très compliqué souvent de se relancer. Donc j'espère que ça va le relancer et lui faire du bien, sachant que comme l'a dit Robin, la fin de saison va peut-être mettre le pied et peut-être vouloir préparer du mieux que l'on peut la saison prochaine, qui va être encore très intéressante pour la course au maintien, on le sait très bien.
Effectivement, des ressources, il va en falloir de toute façon pour la prochaine rencontre à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Comment est-ce qu'on doit aborder cette rencontre du côté du SCO? Très tranquille, peut-être pas trop non plus au vu de ce que ça a donné à Lens, Robin?
Bah, moi je pense pas trop non plus, parce que voilà, il y a quand même des supporters qui viennent pour le club, qui viennent attendre du spectacle du côté du SCO, donc faut pas non plus venir en mode tranquille et puis voilà, si on gagne pas le match, c'est pas grave. Faut essayer de prendre des points toujours, c'est toujours intéressant. Face à un Lyon qui, on va en parler après, est vraiment en difficulté sur ces dernières semaines. Donc voilà, pour le SCO, il y a un truc à faire. Est-ce qu'ils vont avoir l'objectif de voilà, plutôt, comme je l'ai dit, gérer la fin de saison, ou essayer de faire plaisir à leurs supporters et essayer d'aller décrocher une victoire ou à minima un point face à un gros cador de notre Ligue 1? Ça sera à suivre, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire face à ce Lyon très malade.
Le rendez-vous est pris, en tout cas on verra ça après la trêve. Pour l'instant on va revenir quand même sur cette 27e journée de Ligue 1, qui s'est donc entamée avec cette victoire de Lens face au SCO, on vient d'en parler. Le samedi c'est Toulouse qui a battu Lorient à domicile 1-0, Auxerre à domicile c'est fait du bien, c'est donné de l'air, malgré le carton rouge reçu très tôt dans la rencontre, victoire 3-0 face à Brest. Et puis samedi, pour clôturer cette journée, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé très facilement face à Nice, en terre niçoise, 4-0. Dimanche, la journée était bien remplie, effectivement, avec des grosses rencontres, à commencer à 15h par la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile face à Monaco, 2-1. Match nul et vierge entre Rennes et Metz, 0-0 au Roizen Park. Le Paris FC s'est fait peur, mais s'est finalement imposé face au Havre, 3-2. Et puis Marseille a également perdu, relançant, on va en parler tout à l'heure, là, dans très très peu de temps, donc de cette course à la Coupe d'Europe, défaite 2-1 à domicile face à Lille. Et puis en fin de journée, donc rencontre très attendue entre Nantes et Strasbourg, défaite à domicile de Nantais qui ont été vaillants quand même, il faut le souligner, défaite 3-2 face à des Strasbourgeois. Derrière au classement ça se resserre, notamment pour l'Europe. Alors il y a quand même un grand trou qui a été fait par Lens, donc il y a plus 10 par rapport à Marseille. Les Lensois deuxième face au Marseillais troisième, 49 points contre 59. Paris, avec un match en moins, est à 60. Derrière, Lyon est à 47, Lille est à 47, Monaco est à 46, Rennes est à 44, et Strasbourg se rapproche également puisqu'ils sont à 40. Très peu de points, c'est quand même un petit mouchoir de poche. Et puis derrière, dans la zone de relégation, c'est presque fini pour Metz et Nantes. Metz 18e avec 14 points, Nantes 17e avec le même nombre de points, donc 17 que leur position. Et puis Auxerre donc ferme la marche de cette zone de relégation en tant que barragiste avec 22 points, qui se rapproche quand même de Nice et du Havre. Donc à voir ce que ça donnera en fin de saison, on va continuer de suivre ça. On va forcément lancer un débat sur ces places européennes. Il reste 7 journées à jouer désormais, donc ça se resserre. Et pourtant on a vraiment, comme j'ai dit, un mouchoir de poche entre Marseille, Lyon, Lille, Monaco, Rennes, Strasbourg. beaucoup de monde pour au final très peu de place. Qu'est-ce que vous voyez vous qualifier en Coupe d'Europe, à commencer peut-être par la Conference League si on fait des pronos par place.
Conference League, bah je pense ça a beaucoup joué quand même entre Rennes et Strasbourg, qui sont les deux équipes on va dire et qui l'effectif le moins armé des six autres. Si je me trompe, enfin des quatre autres plutôt. Quand je pense plutôt comme ça, mais des quatre autres du coup qui restent et je pense que ce sont des équipes qui sont le plus aléatoires aussi. Rennes est capable de, bah, comme ces derniers temps, avoir une très bonne phase. Et là, sur les deux derniers matchs, faire nul contre Metz, qui est quand même la lanterne rouge.
Et 0-0 perdre... en plus.
Oui, voilà. Faire 0-0, pardon. Faire 0-0 contre Metz, quand même, qui est lanterne rouge, dans un match où ils ont dominé de A à Z sans vraiment dominer, on va dire ça comme ça. C'est très compliqué. Et puis, perdre contre Lille la semaine dernière. Donc, c'est des équipes qui sont un peu dans le même registre.
Et pour les places en Europa League, on rappelle qu'il y a deux places en Europa League en France, barrage et puis phase de groupe, si je dis pas de bêtises, plus la Coupe de France. Après, toi, Robin, tu vois qui au vu de la dynamique?
Bah écoute, pour d'abord répondre pour la Conference League, moi je vois bien un petit Stade Rennais. Voilà, un Stade Rennais qui était très très en forme depuis quelques matchs et puis là, moi je trouve perd vraiment gros avec une défaite face à Lille. Il y a un Lille qui était pourtant malade hein, sur les derniers matchs. À part en Ligue 1, ils s'en sortaient ric-rac à chaque fois en proposant pas forcément du beau jeu. Et ils s'en sortent quand même face à Rennes en s'imposant 2-1. Et derrière les Rennais qui perdent aussi gros, on l'a dit, comme l'a dit Paul, face à Metz avec ce 0-0 ce week-end. Donc non, franchement, Rennes là, si on fait le prorata, ça fait 5 points de plus, ça fait podium pour les Rennais. Donc voilà, c'est compliqué pour les Rennais que je vois, voilà, quand même garder une certaine dynamique, mais pas la dynamique d'il y a quelques semaines non plus. Donc voilà, moi je les vois terminer sixième et puis ensuite pour la course à l'Europe. Moi j'ai peur pour l'Olympique Lyonnais quand même. J'ai peur que là voilà, on voit que c'est très très resserré, comme tu as dit, c'est un peu dans un mouchoir de poche et la dynamique est vraiment très très mauvaise. Donc j'ai peur que ça s'écroule en fait tout simplement sur cette fin de saison. Avec un Lille qui prend beaucoup de points, un Monaco qui depuis la double confrontation Ligue des Champions contre le PSG est très en forme. Moi, j'ai peur que pour Lyon ça s'écroule. Donc attention aussi à Marseille évidemment. Mais voilà, moi si je pourrais partir, j'ai quand même. En fait, j'hésite quand même avec Lyon. Je sais pas, j'arrive pas à trop les cerner. En fait, j'arrive pas à savoir s'ils vont réussir. J'ai pas trop vu leur calendrier. Je sais pas trop s'ils vont réussir à remonter la pente. Mais en tout cas, je vois bien un Monaco sûr accrocher une place à minima pour l'Europa League, si ce n'est potentiellement le podium vu leur forme actuelle. Et on voilà, avec toutes les incertitudes qui planent autour de Lyon et Marseille. Et ensuite, pourquoi pas, voilà, après, ça va dépendre encore une fois ce que j'ai dit des dynamiques. Mais je vois pas forcément un Lyon et Marseille finir sur le podium. Tu vois, moi je vois un Monaco, tu vois, qui est sixième, mais qui est à seulement 3 points de la première place. Venir potentiellement shipper la place et puis après avoir sur la suite des voilà, moi j'ai du mal à me prononcer sur Lyon et Marseille notamment avec comme j'ai dit, ouais, beaucoup d'incertitudes sur les dernières semaines.
Donc un Monaco en mode brigand.
Voilà, exactement, moi je vois vraiment Monaco très très fort sur cette fin de saison.
Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais.
Comme très souvent avec Monaco quand même, c'est oui, beaucoup c'est de moments ça, où, ouais. Janvier, février, on a du mal, on perd beaucoup de points, ça, ouais. Et puis tout d'un coup, tiens, ils se remettent à jouer comme le Barça Prime, ouais, et tout d'un coup, ils finissent deuxième ou troisième.
Akliouch qui renaît juste avant la Coupe du Monde, bizarre.
Avec donc, sa petite annonce, ouais, j'aimerais bien être à la Coupe du Monde, etc.
Bah oui. Bah, forcément. Puis, vu la performance qu'il a lâchée ce week-end, franchement, avoir un Akliouch à ce niveau-là en équipe de France, ce serait quand même assez fou.
C'est sûr.
Mais pour revenir sur l'Olympique Lyonnais, quand même, moi je pense que j'ai à peu près la même vision que toi, Robin, sur l'Olympique Lyonnais en fin de saison. C'est très fatigué. Les joueurs reviennent de blessures, reviennent plutôt bien, mais il y a quand même des choix tactiques qui font quand même douter du côté de Paulo Fonseca, notamment cette défense à 5 qu'il a longtemps utilisée à cause des blessures forcément, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Là, il faut voir aussi, parce que mine de rien, on parle de saison presque gâchée du côté de l'Olympique Lyonnais, défaite en Coupe de France, alors que franchement, la Coupe de France était à portée de main. On a cette défaite face au Celta Vigo, cette élimination... On a ces 5 matchs sans victoire en Ligue 1 aussi face à des adversaires comme le Paris FC, le Havre, etc. Donc du coup ça questionne et on ne sait pas encore quand est-ce que l'Olympique Lyonnais va se reprendre. C'est aussi ça la question. Est-ce que le SCO va vraiment enterrer l'Olympique Lyonnais lors de la prochaine journée? C'est quelque chose qui est tout à fait possible et derrière Lyon pourrait ne pas jouer de Coupe d'Europe. Donc c'est aussi des questionnements qui sont légitimes. Moi je pense que la place de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui elle est en Europa League, ce qui est déjà très bon. Au vu de la saison, et surtout on ne sait pas ce que ça va faire cet été au niveau des ventes, donc espérer une Ligue des Champions, sachant que tu pourras pas garder tes meilleurs joueurs, ça pose question. Donc peut-être que le modèle de l'Europa League convient très bien à l'Olympique Lyonnais. Et puis derrière, je pense que Marseille se qualifiera quand même. Je sais pas ce que vous en pensez en Ligue des Champions. Je pense que Marseille sera là.
Bah Marseille, le problème c'est Marseille. Enfin, c'est que comme un peu Lyon, c'est qu'en ce moment il y a une dynamique qui est un peu plus compliquée depuis février, depuis que Desherby est parti, depuis que Bay est arrivé, il n'y a pas eu vraiment changement dans la mentalité des joueurs. T'as l'impression que les matchs que l'OM gagne, c'est ric-rac un peu. Genre c'est contre Auxerre, on gagne à la toute fin. Marseille gagne à la toute fin, sachant que il faut un match très compliqué. Contre Lyon, c'est les deux équipes sont pas dans un très bon soir et derrière ça fait quand même un match spectaculaire, mais Marseille n'est pas non plus excellent. Contre Toulouse, c'est pareil, tu te fais éliminer dans la semaine en Coupe de France contre cette même équipe, mais t'arrives à les battre au Stadium. Et bah du coup ce week-end tu perds contre Lille, c'est une équipe qui est vraiment dans un roulement un peu aléatoire et qui a besoin je pense de confiance et de plus de sérénité, mais qui a du mal à la trouver. Donc moi je sais pas trop, j'ai envie d'y croire à cette qualification en Ligue des Champions qui leur tend les bras depuis quand même quelques temps, sachant que c'est une équipe qui a les armes pour normalement et qui a moins de joueurs qui ont plus de joueurs avec de l'expérience par rapport à cette compétition là et cette préparation là. Donc j'ai envie de te dire que j'ai envie de te suivre par rapport au fait que Marseille va se qualifier, mais en même temps vu ce que Lille et Monaco sont en train de faire ces derniers temps, c'est-à-dire reprendre du poil de la bête, j'ai du mal à y croire.
Bah ça va nous permettre en tout cas de se projeter peut-être rapidement sur la prochaine journée, parce qu'on a quand même deux énormes rencontres. La première peut-être pour le podium, en tout cas sur ce qu'on se dit là entre nous, c'est quand même la rencontre entre Marseille et Monaco. Marseille qui doit se reprendre, Monaco qui doit valider, engranger encore plus de confiance et être vraiment un véritable rouleau compresseur. Qui est favori pour vous de cette rencontre? C'est dur à le dire.
Monaco quand même, Monaco. Je pense. Monaco à domicile, bah du coup, c'est plus, comme Robin l'a dit, c'est plusieurs matchs depuis la double confrontation contre le PSG que ça joue très très bien. Donc je pense que Monaco est quand même favori.
Je pense aussi. Après voilà, comme on l'a dit, Marseille est capable de tout, hein, vraiment est capable de tout, mais c'est sûr que psychologiquement je pense que s'il y a défaite ici, attention aussi à Marseille, hein, attention, parce que ça pourrait vraiment dans les têtes pour la fin de saison faire très très peur. On l'a vu notamment aussi avec l'élimination, on sait que c'est pas considéré comme une saison gâchée, mais pas loin, comme tu l'as dit, comme Lyon, il y avait la place aussi d'aller chercher cette Coupe de France. Donc attention sur ce match, si Marseille perd, il pourrait perdre gros aussi, notamment psychologiquement. Mais ouais, je vois Monaco s'imposer et vraiment continuer cette grosse série. Ils sont sur 5 victoires minimum, là, j'ai le classement sous les yeux. Donc voilà, et puis remonter les places et après finir 3e comme je le sens.
Deux autres équipes qui ont des séries quand même assez énormes, c'est Lens et Lille. Derby du Nord, donc pour la prochaine journée. Derby presque pour la Ligue des Champions pour Lille aussi, pour continuer la bataille, pour essayer encore une fois d'embrasser le pas des Parisiens du côté des Lensois. Qu'est-ce que ça va faire ce match? Qu'est-ce que ça va donner? C'est presque, enfin moi je trouve que c'est difficile à pronostiquer comme rencontre.
Très difficile à pronostiquer, sachant que bah c'est un derby du Nord qui est quand même ces derniers temps qui tourne un peu en la faveur des Lensois, mais qui quand même qui démontre quand même que Lille est sur une bonne série en ce moment en Ligue 1. En Ligue Europa, mais en Ligue 1, et que Lens est aussi sur une très bonne phase. Donc je pense que ça va être un match très disputé et un très beau match à regarder, je pense, quand même, pour les fans de football.
On verra ça, en tout cas, quand même, pour vous donner les quelques autres rencontres. Ce sera donc Paris Saint-Germain-Toulouse en ouverture de cette journée. Suivra ensuite Strasbourg-Nice, Brest-Rennes, le fameux Lille-Lens, et puis dimanche, donc Angers-Lyon, Metz-Nantes, Lorient-Paris-FC, Le Havre-Auxerre, et pour clôturer donc cette grosse rencontre entre Monaco et Marseille. On va pas quitter nos clubs français, mais on va quitter cette page locale, nationale, pour arriver au niveau des Coupes d'Europe avec toi, Paul.
Et oui, mardi dernier se jouaient les huitièmes finales de retour de la Ligue des Champions. Le PSG, le dernier club français encore en lice, se déplaçait sur la pelouse de Stamford Bridge pour y affronter Chelsea. Avec 3 buts d'avance, après sa victoire 5-2 6 jours plus tôt au Parc des Princes, les Parisiens n'ont pas traîné avec des réalisations de Kvaratskhelia à la 6e minute et de Barcola à la 14e minute. Après seulement 15 minutes de jeu, les Parisiens avaient déjà presque les deux pieds en quart de finale. Maïlou viendra parachever le festival parisien avec un but à la 72e minute, qualifiant le club de la capitale pour les quarts de finale. Des quarts de finale où le PSG retrouvera Liverpool un peu plus d'un an après, le fameux 8e de finale. Les Reds ont réussi à faire la différence contre Galatasaray chez eux à Anfield en l'emportant 4-0. Pour les autres résultats, le Real n'a pas tremblé à Manchester et se qualifie pour le prochain tour en l'emportant 2-1 à l'Etihad Stadium. Arsenal a aussi décroché son ticket pour les quarts en battant Leverkusen 2-0. Le Bayern en a collé 4 à l'Atalanta, portant le score aller-retour à 10-2. Le Barça s'était fait peur à St James' Park en arrachant le nul dans les dernières minutes. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait de cadeau Newcastle en l'emportant 7-2 au Camp Nou. L'Atlético Madrid a validé son ticket malgré une défaite 3-2 à Tottenham grâce à sa victoire 5-2 lors du match aller. La plus grosse désillusion restera l'élimination de Bodø/Glimt qui s'est inclinée 5-0 au Portugal contre le Sporting après prolongation. L'équipe norvégienne avait pris un avantage important après sa victoire 3-0 à domicile, n'a pas réussi à protéger son avance. Pour finir cette semaine européenne, Lille, Lyon et Strasbourg avaient encore tout à jouer pour rejoindre les quarts de finale. Tout d'abord, les Nordistes s'étaient inclinés 1-0 à Pierre-Mauroy contre Aston Villa. Un exploit était donc nécessaire à Villa Park. Malheureusement, les Lillois n'arriveront jamais à trouver la faille dans la défense des Villans et s'inclineront 2-0. De son côté, Lyon avait réussi à ramener le point du match nul de Vigo, lui permettant de mettre le plus de chances de son côté pour la qualification. Malheureusement, les Lyonnais vont évoluer à 10 contre 11 pendant 70 minutes après l'exclusion dès la 19e minute de Niakate. Les Espagnols en profiteront pour gagner 2-0 au Groupama Stadium et ainsi éliminer le premier de la phase de ligue de cette Ligue Europa. Enfin, pour conclure, Strasbourg recevait Rijeka après sa victoire 2-1 en terre croate. Après s'être fait très peur avec l'ouverture du score des visiteurs, les Strasbourgeois ont égalisé et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Conférence League où ils affronteront Mayence. Alors, on peut commencer d'abord par, je pense, la qualification du PSG. Après, du coup, cette grosse victoire à l'aller et ce match retour complètement maîtrisé, est-ce que, pour vous, le PSG est, du coup, le grand favori de cette compétition?
Ah, c'est dur à dire quand même. Je pense que c'est très dur à dire. Après, c'est un match qui est rassurant parce qu'on émettait quand même beaucoup de doutes. En vrai, ça devait effectivement être le match rassurant pour le Paris Saint-Germain à l'origine. Ça l'a fait. Ça l'a fait même plus que prévu, je pense. Je pense aux supporters parisiens qui ne devaient pas s'attendre déjà à un 5-2 à l'origine et puis un 3-0 quand même aussi rapide au match retour. Donc après, dire que Paris est l'équipe favorite de cette Ligue des Champions, je pense que c'est compliqué. Pour moi, aujourd'hui, il y a un favori incontestable qui est le Bayern. Mais encore une fois, le vrai gros test du Bayern, ce sera contre le Real. Donc là aussi, ça permettra de voir comment va l'équipe. Et puis sinon, dans les gros favoris, Arsenal, évidemment. Même si Arsenal a le don toujours de choke, hein, ça c'est quand même la grosse classique. On l'a vu déjà rien que ce week-end avec la finale de FA Cup. Donc bon... À voir. Après, le Paris Saint-Germain peut faire un doublé. Je pense à les armes pour faire un doublé et l'a bien prouvé avec cette rencontre, effectivement.
T'en penses quoi, toi, Robin?
Bah, écoute, moi, je rejoins Mathéo parce que pour moi, le Bayern, de ce que je vois, de ce qu'ils produisent, c'est juste une machine. C'est impressionnant à voir jouer. Après, je pense que voilà, le PSG peut, contrairement à la rencontre qu'on avait vue en phase de ligue, voilà, je pense qu'ils ont plus d'armes que à ce moment-là et peut venir embêter le Bayern si demi-finale il y a, bien sûr. Après, voilà, je pense que contre Liverpool, je vais pas dire que ça va être une balade, hein, bien évidemment, mais je pense que ça va être une double confrontation plus simple que l'année dernière. Déjà, voilà, avec un Liverpool, on l'a vu vraiment affaibli. Outre cette victoire contre Galatasaray, on a vu, voilà, le déplacement là-bas, c'est compliqué. Même ce week-end contre Brighton, j'ai regardé le match en première ligue contre Brighton ce week-end, c'était vraiment pas fameux non plus. Donc honnêtement, voilà, je vois le PSG s'imposer contre Liverpool. Après, contre le Bayern, ça va être une autre histoire. Et puis derrière, comme l'a dit Mathéo, de l'autre côté, Arsenal, moi, en tout cas, je me projette sur une petite finale Bayern-Arsenal, parce qu'Arsenal a vraiment les âmes, même si je vois quand même quelques... J'ai du mal quand même, Arsenal, moi, dans le jeu, je les trouve pas exceptionnels. Mais je pense que voilà, ils ont de l'expérience maintenant, ils savent comment faire dans les grands rendez-vous après toutes ces défaites, et on l'a vu encore ce week-end, comme tu l'as dit Mathéo, avec cette défaite 2-0 face à City. Donc voilà, moi je vois le Bayern sans trop de risques, je pense. On verra bien. Après, il est possible que le grand Real Madrid, comme dans les grandes heures, on ne sait jamais que cette équipe sorte le Bayern, mais voilà, en tout cas pour moi ce sera également le Bayern.
Ça marche. Et du coup, on va peut-être revenir sur peut-être la plus grosse désillusion de cette semaine-là. Je pense que Mathéo a dû verser quelques larmes jeudi soir. Lyon, du coup, avec cette défaite contre Vigo, un peu prématurée, du coup, avec le rouge de Niakate qui a du coup fait beaucoup de mal aux Lyonnais. Est-ce que c'est le rouge qui a engrangé cette défaite ou est-ce que cette équipe-là était vraiment supérieure à l'Olympique Lyonnais?
En fait, c'est assez dur à dire. Je pense que même avec le rouge, je sais pas si on aurait vraiment fait quelque chose. En vrai, si on doit être vraiment véritablement honnête. Alors, bien sûr, individuellement, l'Olympique Lyonnais est devant le Celta Vigo, c'est sûr. Le Celta qui a perdu, en plus, ce week-end, je sais plus contre qui, mais contre
une... Il mène 3-0, ils perdent 4-3 contre Alaves.
Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est assez terrible. Hein. C'est assez dur de voir ces résultats-là le week-end après t'être fait éliminer en Coupe d'Europe par le Celta Vigo. Mais, L'Olympique Lyonnais a pas fait un match si déconnant que ça sur la première mi-temps, je dirais quand même, parce que tu prends un rouge à la 20e, derrière tu t'exposes presque pas, il y a pas véritablement d'énormes occasions ou d'énormes ratés de la part du Celta Vigo. Il y a des occasions parce que c'est logique, t'es à 10 contre 11, mais ça a pas été horrible. Le problème, ça a été l'animation offensive qui a été j'allais dire neutre mais négative en première mi-temps. Il y a rien, il se passe rien, et en deuxième mi-temps les rentrants font pas non plus des rentrées exceptionnelles, mais après c'est des gens qui sortent de blessures. Soulche n'a pas pesé, Fofana je sais même pas s'il a touché un ballon, honnêtement. Après il a joué 10 minutes donc c'est pas facile, et puis Moreira par contre a fait une rentrée intéressante. Donc sur ce match-là, en fait, c'est l'état d'esprit, moi, où, sur lequel je me questionne par rapport à l'Olympique Lyonnais, parce que effectivement, t'es en train de tout perdre. T'avais réussi à faire toutes ces victoires d'affilée en ayant un état d'esprit presque irréprochable, des vrais guerriers, etc. Et là, d'un coup, tout perdre comme ça, ça questionne beaucoup. Alors effectivement, il y a la question de la fatigue aussi qui joue beaucoup du côté de l'OL. Mais à ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué. Et puis j'aimerais saluer quand même la rentrée assez catastrophique de Tanner Tessman, encore une fois.
Toujours lui.
Qui est un joueur horrible. Sur le premier but, quand même, il faut se dire, il est en plein milieu de la surface de réparation, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le but. Donc il est en plein milieu, la balle passe devant lui, il a le temps de la voir venir parce qu'on voit le joueur du Celta Vigo déborder Steve Kango. Il la voit arriver, cette passe. D'ailleurs, cette passe qui, à mes yeux, est faite beaucoup trop tôt, qu'il aurait pu un peu plus réfléchir, le joueur espagnol, prendre plus le temps de le faire, mais bon, il l'a fait. Au final, ça fonctionne. Parce que Tessman voit la balle arriver devant lui, ne fait rien. Il ne fait rien. Mais moi, je trouve ça dingue, un joueur professionnel comme ça qui ne fait rien quand il voit un ballon dans sa surface. Donc, c'est vrai que ça questionne. Après, est-ce que Tessman, s'il avait mis le pied, l'aurait mis dans le but? Évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est dommage, et derrière c'était un tableau qui était tellement ouvert, parce que là tu joues Fribourg, si je dis pas de bêtises, derrière,
c'est ça, ouais.
Qui s'est qualifié, et derrière la plus grosse équipe sur laquelle tu peux tomber, c'était le Betis Séville. Donc il y avait quand même un tout droit peut-être vers la finale, peut-être au moins vers les demi, puisque l'OL avait déjà perdu 1-0 face au Betis, mais c'est une grosse désillusion, beaucoup plus que pour Lille. Je sais pas toi ce que t'en penses, Robin, mais c'est vrai que c'est assez terrible.
Ouais, parce que Lille, c'était voilà un exploit, et on, je vais pas dire qu'on en attendait pas grand chose, mais voilà, on savait que ça allait être très compliqué, alors que Lyon avait les armes vraiment pour. On avait vu ce match aller déjà. Bon, on pouvait nourrir des regrets du côté des Lyonnais avec cette égalisation un peu tardive.
Et le rouge.
Et le rouge, bah, c'est pour ça, aussi, ça que hein. Je dis ça, c'est parce ouais. que justement, c'est à la combienième d'ailleurs, le rouge?
60e, je crois.
Donc, voilà, il y avait quand même un petit peu de temps, et puis là, en fait, Le rouge, vraiment, je vais pas dire qu'il anéantit les espoirs directement, mais voilà, il fait très très mal, je pense aussi psychologiquement. Et voilà, franchement, il y a d'énormes regrets à nourrir pour les Lyonnais. Comme tu le dis, ils étaient au-dessus du Celta, individuellement parlant, enfin sur le papier en tout cas. Ensuite, comme tu l'as dit, voilà, tu finis premier de phase de ligue en faisant une super phase de ligue. T'avais le tableau ouvert, et puis voilà, tout s'écroule. Ça va avec la forme du moment côté lyonnais, donc c'est sûr que c'est terrible. Mais oui, c'est sûr qu'après, c'est vraiment une plus grosse désillusion que Lille qui voilà, ils avaient perdu 1-0 à l'aller, il fallait aller gagner à Villa par 2 buts d'écart pour aller se qualifier. Non, c'était trop compliqué, donc gros regret côté lyonnais, c'est sûr.
Puis je pense à ça aussi, le Celta Vigo avait aussi deux énormes absents, deux gros joueurs titulaires, Mingueza, Borja Iglesias, qui était pas là. Enfin, c'est quand même et heureusement d'ailleurs que Borja Iglesias n'était pas là, parce que sa capacité à prendre la profondeur, évidemment, en première mi-temps aurait fait la différence bien plus tôt que l'ouverture du score du Celta Vigo. Donc oui, c'est clairement dommage. Je sais pas, je pense que c'est la meilleure manière de résumer les choses, honnêtement.
Bah vraiment, comme tu dis, vu le chemin qui était fait pour l'Olympique Lyonnais derrière, ça peut comment dire, un peu donner beaucoup de déception quand même pour une équipe. Mais bon, comme je revenais sur ce qui me trottait dans la tête, c'est, tu dis que c'est une saison qui commence, on peut dire, peut-être être gâchée. Mais en même temps, est-ce qu'au début de saison, tu te voyais être top 5, faire quand même premier de phase de ligue, aller jusqu'en quart de finale de Coupe de France avec cette équipe-là, sachant, vu tout ce qui s'est passé l'été dernier, vu comment la saison était préparée, c'était vraiment inimaginable que l'Olympique Lyonnais arrive à faire ça. Malheureusement, quand tous les matchs se sont déroulés et que derrière, t'arrives à faire ça et que ça se passe comme ça, derrière, la désillusion qui arrive, je peux comprendre que ce soit très compliqué, mais derrière, faut quand même se dire que Fonseca fait que, j'ai envie de dire, les moyens du bord avec ce qu'il a. Et moi, je trouve ça quand même exemplaire de ce qu'il fait.
Après, moi, je vois ça comme, genre, en vrai, je comprends, bien sûr, et même nous, on est super contents, effectivement. Enfin, là, c'est mon côté, effectivement, supporter lyonnais qui parle, mais c'est, en fait, la saison de l'OL, c'est comme si tu lisais une très belle romance, une romance géniale, et juste avant que ça se concrétise, le bouquin se finit. On fait quoi avec ça, en fait? C'est hyper brutal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est surtout que l'Olympique lyonnais a tout perdu en un mois et demi. En huit matchs.
Même pas un mois et demi.
Même pas, ouais. Donc c'est terrible, tu perds tout presque, parce que là ça va être très compliqué d'aller chercher le podium. Alors après, en termes de gros clubs, il doit rester Paris et Rennes du côté de l'Olympique Lyonnais.
Lens
aussi, oui, effectivement, ouais. Donc ça reste trois grosses équipes. Donc ça va être compliqué, hein, cette fin de saison, effectivement.
On verra bien.
On va passer peut-être à la pause musicale, juste avant quand même, parce qu'on parlait de Coupe d'Europe. Il y a la Ligue des Champions féminines, les quarts de finale, quand même, avec Wolfsburg qui mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais, super, enfin les OL Lyon. Et puis à 21h, on aura donc un alléchant Arsenal-Chelsea. Pour l'heure, donc, on va partir en pause musicale, effectivement, avant d'aborder le reste de l'actualité internationale. On part sur 1985 de Freddie Gibbs avec The Alchemist sur le 101.5 FM.
Flow the God level, nigga. But, yeah. Finna up the flows of the God level on that quad. Yeah. Check. Yeah. Check.
They never went over it, man.
Yeah. We check. Yeah. Bitch. Check. Yeah. Caught a thing to a whole thing, whole game work. Hit a bitch with that extended clip, with that revolver shit, it serve the same purpose. Geekers beaming up to Scotty in my crack lobby, I can smell the cane burning. Michael Jordan, 1985, bitch, I travel with a cocaine circus. Put the methanations on your clown ass, catch a nigga up and leave him down bad. I go get a pack and take a nigga town and fuck his bitches with my out of town ass. Bomb on niggas like Nagasaki, rocket next to my pocket, I like a body. Drop the check on the bit, many niggas be looking like baby mamas in these Maseratis. Bitch, I fuck up your face with a razor, I make sure your motherfucking family can't do your body. Nigga thugging this shit, put my blood in this shit, prick my finger, Alfredo Illuminati. Joe Pesci pushing product, you niggas is sweeter than Joe Exotic. On the run like a soda, so fuck the police, is a nigga be chilling in the Habana. Police caught him with a whole thing, now they stitching main whole game working. Gangland made a lane in it, did my name in it, it's a game murder. All my raps in the crack files, bitch, I got them up at the ball. I'm the reason your mama be smoking that Rilla when ripping them contenders off. Yeah, geekers beaming up to Scotty in my crack lobby, I can smell the cane burning. Gangland, if you put a hit on Freddie Kane, it'll be a game murder. 1985, Michael Jordan, bitch, I travel with a cocaine circus. Flow God level like a nose speak, I make a song, we forget the game, hurt. Bitch, yeah. Flow God level like a nose speak, I make a song, we forget the game, hurt. Yeah. Check. Nigga, need to check.
We got everybody in the house, man.
C'était 1985 de Freddie Gibbs avec The Alchemist. Vous êtes toujours sur le 101.5 FM à l'écoute de Radio G, Génération Sport. Donc on va passer à notre page actualité internationale désormais avec toi, Robin. On va parler de tennis.
Oui, on va désormais évoquer ce très surprenant tournoi de Miami, puisqu'en effet il y a énormément de surprises dans ce début de Masters 1000. On peut commencer par les Français déjà, et c'est un petit événement puisque 4 Français sont au rendez-vous des 8e de finale. Pour commencer, Arthur Fils, qui a notamment effacé sur sa route au tour précédent Stefanos Tsitsipas, d'une façon presque surréaliste, hein, puisque le Grec n'a réussi à remporter qu'une seule petite mise en jeu et s'incline sur le score spectaculaire 6-0-6-1. Arthur Fils qui l'a dit en début d'émission est en train d'affronter Valentin Vacherot, le monégasque, en quart de finale, et il vient de se faire rattraper puisqu'il y a désormais un set partout entre les deux joueurs. Pour les autres Français, la grosse surprise est clairement du côté de Terence Atman, réputé notamment pour son irrégularité sur le circuit, mais qui là réalise un super tournoi en ayant notamment écarté la tête de série numéro 7 Félix Auger-Aliassime au troisième tour, et affrontera Frances Tiafoe pour tenter d'accéder au quart de finale. Hugo Humbert, de son côté, est aussi présent en huitième et a une belle carte à jouer face à Francisco Cerundolo demain. Enfin, le dernier Français encore en lice est Quentin Alice, qui lui aussi a réalisé une très belle perf puisqu'il a éliminé Davidovich Fokina de 7-0 au deuxième tour et qui affrontera un nouveau gros morceau puisque c'est Alexander Zverev qui se dresse sur son chemin lors du prochain tour. Je le disais donc en introduction, énormément de surprises dans ce tournoi, à commencer par l'élimination prématurée de Carlos Alcaraz au troisième tour face à un très très grand Sébastien Corda en 3-7, 6-3, 5-7, 6-4. Mais ce n'est pas le seul, puisque dès leur entrée en lice, 12 des 32 têtes de série sont tombées, en sachant, on le rappelle, qu'elles étaient exemptées de premier tour et qu'aucune aucune tête de série ne pouvait se rencontrer lors de leur premier match, soit donc le second tour. On a notamment vu lors de ce même second tour les éliminations d'Alex de Minaur, tête de série 5 en 2-7 face à Tsitsipas, de Bublik, tête de série 10 également en 2-7 face à Berrettini, de Ben Shelton, tête de série 8 qui jouait à domicile face à Shevchenko, le Kazakh, en 3-7, et de Casper Ruud, tête de série 11 qui lui a également joué face à Ethan Keane, donc un Américain, qui s'est vu éliminé en 2-7. À ce stade des huitièmes de finale, on l'a dit, il reste donc 12 têtes de série et seuls 3 du top 10. Mais maintenant plus que 2, vu que Taylor Fritz vient de se faire éliminer par Jiří Leška, le Tchèque. Et donc il reste seulement Alexander Zverev, tête de série 3, et Yannick Sinner, tête de série 2. Tout cela offre forcément des occasions de faire un grand coup, notamment pour Arthur Fils, qui n'affrontera que Sinner ou Zverev en cas de qualification en finale, puisqu'en cas de qualification face à Vacherot en ce moment, le Français affrontera Etcheverry ou Tommy Paul en quart, et en cas de qualification, certainement Fritz ou Korda. Et donc, plus Fritz, vu que j'avais écrit à ce moment-là Fritz qui était grand favori, mais maintenant c'est les HK, ce qui semble donc assez ouvert pour le Français. Pour les trois autres, ça semble forcément beaucoup plus compliqué, hein, avec la présence des désormais deux favoris à la victoire finale. Mais on peut déjà leur dire un grand bravo, car leur parcours vont nourrir de nombreux espoirs pour la suite et font du bien, surtout pour le tennis français.
Bah oui, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, confiant ou pas, vous, sur la potentielle percée d'Arthur Fils sur ce tournoi?
Moi, pour ma part, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt une confiance totale envers Arthur Fils, car je pense que derrière, s'il arrive à battre Vacherot, ça serait Tommy Paul ou
Etcheverry.
Donc je pense que ce sont déjà deux joueurs à sa portée, et derrière, ça serait sûrement Leška ou comment il s'appelait déjà, j'ai oublié.
Mais en plus j'ai dit une bêtise, parce que Korda lui aussi qui était favori, donc il s'est fait sortir également, donc c'est lui qui avait battu Alcaraz, et il s'est fait sortir par l'Espagnol Landaluce, donc voilà, on a vraiment plus, tous les favoris qui sont sortis les uns après les autres.
Donc en vrai, je pense que la porte jusqu'à la finale sont pour l'instant ouvertes pour Arthur Fils s'il passe Vacherot déjà.
Et si on prend un cadre un peu plus large, qui est pour vous là le grand favori, Robin, toi qui as regardé un petit peu le tournoi quand même, est-ce que on peut voir un Zverev remporter la mise, est-ce qu'on peut voir un Sinner ultra favori, ou effectivement on peut avoir des contenders comme Arthur Fils peut-être?
C'est sûr que pour Arthur Fils, comme il y aura une potentielle demi-finale Sinner Zverev, le chemin c'est un tout droit jusqu'à la finale. Maintenant, voilà, l'objectif c'est déjà passer ce tour-là, vu qu'il y a un set partout, mais voilà, c'est plus que ouvert pour le Français pour aller en finale. Et après, voilà, je vois dans tous les cas, moi, plus Sinner que Zverev, enfin vraiment Sinner en mode robotique toujours, qui fait vraiment preuve de grande puissance. On l'a vu avec le tour précédent face à Moutet, qui s'impose 6-1, 6-4, si je dis pas de bêtises. Donc je vois pas forcément de surprise face à Zverev, mais bon, je dis ça, on a vu énormément de surprises. Franchement, c'est un tournoi assez particulier, assez surprenant, comme je l'ai dit en introduction, avec voilà tous les favoris qui se font sortir les uns après les autres. Donc on ne sait pas, ça se trouve ça sera ni Sinner ni Zverev en finale, et Arthur Fils se retrouvera face à un outsider. Donc à voir, mais ouais, franchement Fils a vraiment une grosse carte à jouer pour au moins atteindre la finale, si ce n'est le titre sur un match, on ne sait jamais. On l'a vu déjà en finale à Doha, si je dis pas de bêtises. C'était Doha ou Dubaï? Non, c'était Doha.
Ouais.
Face à Alcaraz, Alcaraz totalement imbattable. Mais s'il pouvait encore une fois faire une finale, ça serait vraiment engranger énormément de confiance avant un gros Roland-Garros qui, pourquoi pas, pourrait lui être favorable.
Et justement, si on peut essayer de commencer à faire des petites prédictions, alors peut-être pas sur Roland-Garros, mais au moins sur... on peut le faire, hein, remarquez, mais peut-être au moins sur cette saison d'Arthur Fils, qui revient de blessure, qui revient quand même
hyper bien. Faut quand même le dire, on fait que d'en parler à chaque fois, mais il faut le spécifier. Comment est-ce que vous voyez vous la saison de Fils si blessure il n'y a pas, effectivement, ce qui s'avère, ce qui est quelque chose d'imprévisible.
Oui, comme tu dis, c'est imprévisible les blessures, mais comme il revient très bien, je pense, de sa blessure au dos qui a quand même été très longue, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc non, j'espère pour lui que ça va continuer comme ça, déjà qu'il y a la saison tabattue qui va arriver avec les gros tournois qu'on connaît, qu'il adore, parce que l'année dernière il a quand même fait des très beaux tournois. Donc non, j'espère que ça se passera très bien, et Roland Garros, bah on espère d'aller le plus loin possible. Un minimum, un huitième ou un quart serait incroyable, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des Français performer à Roland-Garros. Donc moi j'espère qu'il nous fera rêver encore une fois.
On verra ça. Toi Robin, t'en penses quoi de la saison là, qui...
Oui, si on parle de Roland-Garros en particulier, moi je pense que tout va dépendre du tableau, hein, comme d'habitude forcément, même si là on a un Fils qui sent vraiment au top de sa forme, voilà, il a plus l'air d'avoir de problèmes au dos. Il est défait très rarement, où voilà, on a une défaite face à Demi-Nord et Ogier Aliassime au début, où il était, voilà, il avait pas forcément engrangé du niveau, il revenait tout juste de blessure, mais là on le voit vraiment très très en forme et quasiment imbattable, même lui il l'a dit, ça va être très très dur de le battre. Après si on sait jamais, hein, si il tombe face à un Alcaraz en huitième, bah forcément la tâche va être très compliquée, donc voilà. Mais s'il faut faire des prédictions sur la saison en général, voilà, franchement, il y a des titres à aller chercher, que ça soit sur terre battue, sur dur, peut-être même sur gazon, on sait jamais, pour Fils qui lui correspond un peu moins. Moi, je pense que ça peut être le début d'une grande ère et de sa saison. Ça peut être sa saison référence, en tout cas, avec voilà au moins des ATP 500 à aller chercher. Pourquoi pas des finales Masters 1000 en commençant par Miami, et pourquoi pas une victoire à Masters 1000, qui sait.
Et engranger des points.
Exactement. Potentiellement un top 10 en fin de saison, en fin d'année, si possible aussi.
Ce qui serait assez fou. Une équipe qui, elle, pour le coup, je me permets de faire ma petite transition, est un peu loin du top 10, mais qui devait impérativement gagner ce soir face à Montpellier, c'est l'UFAB. Et pour l'instant, dans le premier quart-temps, hein, on vous l'a dit, le match est en cours. Pour l'instant, l'UFAB perd donc à domicile 12-17 face au Montpellier-Rennes. On va passer au cyclisme maintenant, puisque c'était le retour du vélo ce week-end avec le premier grand monument de la saison. Et c'est une édition de Milan-San Remo qui restera évidemment gravée dans les légendes du cyclisme. Le Slovène Tadej Pogacar a remporté la Primavera pour la toute première fois de sa carrière au terme d'un scénario que l'on pourrait qualifier de pure folie. L'histoire retiendra d'abord un début de course absurde où l'échappée matinale s'est perdue dans un rond-point à cause d'une erreur d'aiguillage de la voiture de direction. Mais la véritable dramaturgie ne s'est nouée que bien plus tard, à moins de 5 km du pied de l'ascension mythique de la Cipressa. Le double champion du monde chute de lui-même, amenant avec lui une dizaine de coureurs dont Wout van Aert. Le cuissard déchiré, le dos et la cuisse gauche râpés. On se dit à ce moment-là que Milan-San Remo ne rentrera pas encore dans le palmarès de Pogacar. Mais force est de constater que pour créer des éditions d'anthologie, le Slovène est doué. Il est même très doué et il a fait preuve d'une abnégation absolue, comblant la vingtaine de secondes qu'il sépare du peloton juste à temps pour aborder la plus grosse difficulté du jour. C'est là que le plan de l'équipe UAE s'est mis en place avec un gros travail d'Isaac Del Toro. Pogacar place une accélération à 2,5 km du sommet de la Cipressa. Le peloton explose en plein vol. Seuls deux hommes parviennent à s'accrocher à sa roue. Le Britannique Tom Pidcock et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. La décision finale s'est jouée dans les pentes du Poggio. À 3 km de la bascule, Pogacar allume une nouvelle mèche et réussit son pari, faire craquer Van Der Poel. Le Néerlandais ne s'en remettra pas et terminera même 8e de l'épreuve. Il ne restait alors que Tom Pidcock dans le siège du Slovène sur le plat menant à San Remo. Le Britannique joue l'intox, refusant de prendre les relais. Sentant le retour menaçant de Wout van Aert à l'arrière, Pogacar prend ses responsabilités. Il lance un sprint de loin et s'impose en patron sur la Via Roma devant Pidcock et Van Aert. Côté tricolore, c'est Christophe Laporte qui termine premier français à la 16e place. Avec cette victoire dantesque, Tadej Pogacar épingle le 11e monument de sa carrière. Il ne lui manque désormais plus que Paris-Roubaix, prévu dans 3 semaines. Le rendez-vous est pris. Nous, on va se concentrer uniquement sur Milan-San Remo. Je sais que toi, t'as regardé. Paul, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, j'ai envie de te dire que t'as tout dit. C'est vraiment un scénario qui est hollywoodien, j'ai envie de te dire, tellement c'est fou. Tu dis que Pogacar va perdre ce Milan-San Remo encore une fois. Ça lui va encore lui filer entre les mains et au final, il arrive à revenir au pied de la Cipressa et faire une attaque et emmener Pidcock et Van Der Poel avec lui. Et enfin, Van Der Poel cède dans le Poggio. Et derrière, tu dis que Pidcock peut peut-être le faire parce que c'est quand même un très bon défenseur et un très bon coureur. Et au final, Pogacar arrive à le le garder dans sa roue et arrive au final à gagner au sprint. Donc non, encore une fois, Pogacar a montré qu'il était fait d'un autre bois et qu'il était d'un autre monde dans ce monde du cyclisme. Et ce coureur est vraiment exceptionnel, tant il est capable de nous submerger chaque week-end. J'ai envie de te dire que c'est fou, j'ai envie de te dire que peut-être que Paris-Roubaix, ça sera très compliqué d'aller chercher cette année parce que Van Der Poel est vraiment au-dessus sur ce terrain-là. Et je pense que il faudra encore plusieurs années, comme il a mis plusieurs années, tu vois, à gagner Milan-San Remo. Je pense qu'il faudra encore plusieurs années pour gagner Paris-Roubaix, mais je pense que ça va lui faire beaucoup de bien au moral parce que c'est l'un de ses derniers objectifs qui lui manquait, j'ai envie de te dire.
Ouais, alors qu'il est très très jeune, hein, quand même. Oui, bah, c'est ça qui est aussi terrible aussi sur sa carrière. Non, mais on se dit, si les chutes ne peuvent pas l'arrêter, qu'est-ce qui arrête Pogacar?
Je sais pas, en vrai, j'ai envie de te dire.
Franchement, à part une nouvelle génération de robots un peu comme lui. Qui...
Encore meilleur que lui, du coup. Mais là, actuellement, c'est très compliqué de voir. Même l'année dernière, au Strade Bianche, il avait chuté encore plus lourdement que lors de cette édition de Milan-San Remo. Et au final, il avait fait un numéro en solo pour revenir sur Pidcock et le déposer. Donc, je sais pas, je vais te dire que là, aucune solution pour le battre, je pense.
Bah, à part une blessure, enfin non, on le souhaite pas en vrai de vrai, mais une blessure avant le Tour de France qui pourrait rebattre les cartes à la limite. Mais c'est vrai que voilà, se concentrer déjà sur Paris-Roubaix avec un Van Der Poel archi favori comme il l'était aussi sur Milan-San Remo, on verra comment ça se passera. On quitte le monde du cyclisme pour aller vers le biathlon avec toi, Robin.
Oui, puisque ce week-end, les biathlètes avaient rendez-vous à Oslo pour clôturer cette année de Coupe du Monde. Et ce dernier week-end de biathlon se termine finalement sans victoire pour nos Bleus. Mais de nombreuses célébrations, hein, puisque Lou Jean Monod et Éric Perrault terminent tous les deux premiers des classements généraux féminins et masculins et ont soulevé leur gros globe de cristal devant la foule norvégienne. Une grande première pour l'équipe de France, car c'est la première fois qu'un Français et une Française terminent tous les deux à la première place du classement général la même année. Les courses étaient donc plus anecdotiques pour ce week-end, mais on va quand même les évoquer, puisque même si aucune victoire n'est à mettre à l'ordre des Bleus, on a eu le droit à plusieurs podiums, avec notamment Emilien Jacquelin et Éric Perrault qui ont complété le podium du sprint et de la poursuite derrière Sturla Lægreid qui remporte lui ses deux courses. Éric Perrault que l'on retrouve également sur le podium de la Mastart de dimanche avec une belle troisième place. Du côté des femmes, un seul podium ce week-end avec la deuxième place de Julia Simon qui échoue au sprint face à Anna Öberg lors de la poursuite. Un week-end donc loin d'être le meilleur de cette saison de Coupe du Monde, mais une année XXL pour nos Bleus, qui marquera à coup sûr l'histoire du biathlon français. Je ne sais pas si vous avez suivi ces courses, mais en tout cas, je pense que on peut conclure, comme je l'ai dit, sur une année vraiment de toute beauté de la part de l'équipe de France, en rajoutant également ces JO. On n'oublie pas des JO vraiment également à leur tour XXL. Donc, qu'est-ce que vous potentiellement, si vous avez un petit peu suivi le biathlon, vous retenez de cette saison, ou du moins des JO, parce que je pense que vous étiez plutôt branché peut-être JO que la Coupe du Monde.
Pour ma part, j'ai plus, comme tu dis, été branché au niveau du biathlon pour les JO plutôt que la Coupe du Monde, où j'ai pas du tout suivi pour tout te dire. Mais comme tu dis, je pense que vu ce qui a été proposé aux JO, ça a été exceptionnel déjà. Et comme tu l'as dit, les résultats qu'on suivait en Coupe du Monde l'ont été aussi. Donc je pense que, comme tu l'as dit, ça peut être une saison exceptionnelle et qu'il l'est pour cette équipe de France.
Puis on a de gros espoirs à nourrir, hein, franchement, avec même, là on l'a vu, une belle place pour Oscar Lombardo. Voilà, on a beaucoup d'émergences d'énormément de jeunes. Éric Perrault est encore très jeune. On a vraiment, même du côté des femmes, c'est extrêmement jeune, l'âge moyen est très très faible. Donc honnêtement, on a extrêmement d'espoir à nourrir, que ce soit pour l'année prochaine ou même pour les saisons à suivre, que ce soit donc en Coupe du Monde, en Championnat du Monde, Championnat d'Europe ou même pour les JO. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathéo, sur ça?
Bah, on a de quoi chambouler le monopole norvégien,
c'est sûr.
Donc ça fait très plaisir, effectivement, de voir une nouvelle génération qui émerge. Ça a toujours été un sport quand même très populaire, le biathlon avec Martin Fourcade, etc. Mais voir que ça peut prendre une nouvelle dimension et que ça peut durer, surtout, c'est toujours ça les questionnements. C'est comme au judo, on se disait parfois, après Teddy Riner, qu'est-ce qu'on peut avoir? Au final, on a toujours eu des noms et des nouvelles émergences, et là, c'est le cas aussi. Donc effectivement, je pense que c'est que du positif qu'on peut retenir de cet hiver, qui était pour le coup, sans mauvais jeu de mots, un hiver doré.
Ça c'est sûr. Donc voilà, place à la prochaine Coupe du Monde dans à peu près, je crois que ça débute en novembre, octobre-novembre. Voilà, avec, on espère une nouvelle fois, une Coupe du Monde pleine de victoires de la part de nos Français.
On l'espère, et en tout cas là, on va faire fondre la neige, puisqu'on part des montagnes pour arriver au Brésil, donc, puisque c'est dans un contexte assez particulier que l'Italien Marco Bezzecchi a remporté le GP du Brésil ce week-end, une course amputée de 8 tours, passant des 31 prévus à seulement 23, la faute à l'organisation donc du MotoGP qui a fait un forcing pour venir au Brésil un an plus tôt que prévu. Résultat,
Un trou apparaît en qualification, on leur bouche à la va-vite, la course sprint commence avec 1h20 de retard et enfin on réduit à la hâte la route, tout simplement le tracé. Mais si seulement il n'y avait que cela, tout au long de la course, le goudron s'est désagrégé, projetant des graviers sur les différents pilotes. Ces débris ont causé des blessures légères à Alex Rins, touché à la main, et à Alex Marquez, marqué au bras. Marc Marquez a pour sa part pointé un défaut sur la piste au virage 11, une dépression qui a fait glisser et lui a coûté donc la troisième place au profit de Fabio Di Gianantonio. Sur le plan sportif, c'est bien l'Italien, donc Marco Bezzecchi, comme je l'ai dit, qui a parfaitement su s'adapter. En grande difficulté vendredi, avec le 20e temps des essais, le pilote Aprilia a revu ses réglages avec son équipe pour redresser la barre, quatrième de la course sprint du samedi. Il a ensuite dominé donc l'épreuve principale de dimanche en s'imposant avec 2 secondes d'avance. Cette victoire lui permet donc de prendre les commandes du classement général, laissant Marc Marquez et sa Ducati à 22 points derrière lui. Deuxième victoire donc pour le pilote Aprilia en autant de courses cette saison, la quatrième de suite si l'on prend la fin de la saison dernière. Du côté des tricolores, le bilan est mitigé. Fabio Quartararo a terminé hors des points à la 16e place, en profitant ni de sa 4e place sur la grille de départ, ni de la dynamique de sa 6e position obtenue lors du sprint de samedi. Il a été victime d'un dysfonctionnement flagrant de son pneu arrière apparu dès le tour de mise en grille. Privé de toute adhérence, le Français s'est retrouvé dans l'incapacité de diriger sa moto correctement en courbe et de relancer à l'accélération, subissant la course de bout en bout. Johann Zarco a de son côté assuré l'essentiel en franchissant la ligne d'arrivée en 9e position. Parti à 10e, le représentant de l'écurie LCR Honda a opté pour une approche prudente face aux températures élevées et à l'état du circuit. En lissant son effort et en se concentrant sur la gestion de ses pneumatiques, il est parvenu à maintenir son rythme pour conserver sa place dans le bon groupe et sécuriser un top 10. Voilà pour la MotoGP. On a encore un peu de temps, donc on avait prévu un petit débat quand même sur une grosse info qui est tombée mardi dernier, alors juste après l'émission, ça pour le coup, qui concerne la CAN. Et oui, quand même, 2-3 mois après. Bon, après je vais pas faire de suspense parce qu'on en a déjà entendu parler énormément de cette information, mais la victoire donc du Maroc sur tapis vert dans cette CAN 2025-2026, à cheval sur les deux années. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? C'est quand même une décision vachement étrange.
Moi, je trouve que c'est extrêmement dommage, dans le sens, c'est pas forcément du favoritisme, mais c'est dans le sens de la crédibilité de la CAN. Déjà, on sait que, voilà, pour les personnes qui sont spectateurs de football, la CAN n'est pas forcément symbole de beaucoup de crédibilité. Voilà, c'est une compétition qui est très décrédibilisée, justement, où on considère qu'il y a un niveau assez faible. Voilà, on compare même des fois à l'Europa League, à des, franchement, c'est triste. Et puis là, pour rester dans le crédit, ça leur donne pas justement du crédit de faire ça. Dans le sens où, voilà, on a une compétition qui a pas été au top du top non plus, hein. Footballistiquement parlant, qui était vraiment pas la meilleure. Et puis, ça se finit comme ça. Où il y a eu énormément de polémiques, je m'emballe dans...
Le mot politique marche aussi, je pense.
Oui, hein. Aussi, dans cette finale, et puis surtout faire ça... En fait, pour moi, il n'y a aucune logique dans le sens où il faut arrêter tout simplement la finale sur le moment. Et là, on fait ça, c'est quoi, 3 mois après?
Mais ça n'a aucun sens, moi j'arrive pas...
En fait, je ne comprends pas, il y a zéro logique. Si on arrête cette finale, on l'arrête sur le moment. Ou le lendemain, on dit voilà, mais 3 mois après, faire une déclaration 3 mois après, c'est juste surréaliste, ça n'est jamais arrivé et c'est juste complètement fou. Moi, je suis complètement choqué et franchement, je suis triste, franchement, pour le football africain qui perd beaucoup de sa crédibilité.
Ouais. Et puis c'est une décision qui est en plus hyper ferme. On se dit voilà, on s'en réfère à 2 articles, c'est ferme, on va pas faire autrement. Mais en fait, si c'est ferme, pourquoi 3 mois de tractation? Enfin, c'est ça aussi. Pourquoi ne pas l'avoir dit oui effectivement le jour même ou même le lendemain, ce qui aurait déjà fait un énorme scandale pour le coup, sachant que voilà, moi je me mettrais peut-être un peu plus du côté des Sénégalais parce que je comprends un peu la
position
par rapport au penalty qui était quand même assez dur. Donc c'est pour ça et c'est pareil. D'où sort cette règle encore une fois? Ouais. Enfin, ça existe effectivement dans le règlement du football africain, mais on n'a jamais entendu parler de cette règle-là à l'international. Mmh. Donc derrière, est-ce que le tribunal arbitral...
C'est très étrange. Puis même, je pense que pour la victoire du Maroc, elle n'a pas de saveur finalement.
Oui.
C'est-à-dire fait, elle n'a aucune saveur. Moi, je pense que même les Marocains, je pense qu'ils sont contents au fond d'eux, mais je pas tant. En fait, je pense que c'est un sentiment assez étrange dans le sens où tu gagnes une CAN. Mais c'est pas sur le terrain, comme l'a dit, comme on dit certains, on l'a gagné sur le terrain, pas dans les bureaux, comme l'ont dit certains Sénégalais. Franchement, C'est ouais, je pense que les Marocains en fait, ils doivent pas être forcément contents de cette CAN là, même les émotions c'était à domicile, donc il aurait pu avoir toutes les, mais c'était sur le moment, c'est-à-dire que t'arrêtes la CAN sur le moment, la finale le jour J ou le lendemain, tu aurais pu sortir dans les rues etc, fêter ça vraiment un événement national, et là au final c'est 3 mois après, donc il y a plus cette joie, cette émotion.
En ferveur, il y a rien du tout.
C'est ça, il y a plus rien en fait.
De toute façon, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais en fait, tout le monde a repris le boulot, tout le monde a repris son train-train quotidien, et là, tu viens redonner un trophée 3 mois après pour rien. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Et puis, des façons à reprendre les médailles, reprendre les primes, oui, ça plus, parlait, reprendre le trophée, leur donner. Enfin, pour moi, c'est complètement fou.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, c'est notre avis sur la victoire pardon du Maroc potentiellement à la CAN. On verra si cette décision sera bien validée ou pas par la FIFA. En attendant, il nous reste une minute rapidement pour faire un petit pronostic quand même, puisqu'on a France-Brésil dans 2 jours. Donc ça peut être l'occasion de faire un petit prono. Victoire de la France, Paul.
Oui, je pense quand même victoire de la France. C'est une équipe du Brésil qui a beaucoup de mal en ce moment. Donc oui, je pense une petite victoire 2-0.
C'est honnête. Et toi, Robin?
Je serais parti sur exactement la même chose. Voilà, un Brésil qui est en difficulté sur le plan de la sélection, tout simplement. Et puis une France qui arrive avec beaucoup d'arguments. Donc voilà, une victoire 2-0 tranquille, l'équipe de France.
Moi, je vois bien une petite victoire 3-1 juste pour caler un petit but d'Henrik. Voilà. Et c'est sur ça qu'on va conclure donc cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans une semaine maintenant, mardi prochain, pour une nouvelle émission de Génération Sport. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de Radio G.
Radio G. 101.5 FM.